La vidéo qui va suivre est probablement une des vidéos les plus importantes que j'ai enregistrées depuis le début de la crise du coronavirus. Alors je vous invite à la regarder attentivement et à la partager très largement. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle conversation du lundi, la conversation numéro 33. 33, est-ce que c'est ce que disent les docteurs quand ils veulent examiner l'état de nos poumons? Eh bien oui, 33. Dites 33, docteur. Eh bien, nous en sommes là, effectivement, à nous en remettre ou à remettre notre pouvoir aux médecins, aux scientifiques qui nous disent ce qui est bon pour nous, pour nous protéger de ce méchant coronavirus qui n'arrêtera pas de circuler pour autant et qui sera présent encore l'année prochaine, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 100 ans, parce que je pense que nos ministres de la Santé ont oublié quelque chose, c'est que les virus ont quelques longueurs d'avance sur nous au niveau de leur existence sur cette Terre. Si mes souvenirs sont bons, je crois que ça fait 3 milliards et demi d'années que les virus sont présents sur la Terre. Nous, en tant qu'hominidés, nous ne sommes sur la Terre que, de mémoire, 300 000 ans. 300 000  ans par rapport à 3 milliards et demi d'années. Si je compte bien, allez, on va dire 350 000 ans, ça veut dire un millième. Ça veut dire que les virus existent sur Terre depuis 1000 fois plus longtemps que nous, les êtres humains. Et nous sommes dans une situation où on nous fait croire que nous sommes en guerre contre des éléments, parce que ce ne sont même pas des êtres vivants, contre des éléments qui existent à la surface de la Terre depuis 1000 fois plus longtemps que nous, les hominidés. Et certains ont l'outrecuidance de croire que nous allons gagner cette guerre. Mais d'abord, pourquoi est-ce qu'il faudrait gagner cette guerre? Pourquoi est-ce qu'il faudrait vaincre les virus alors qu'en réalité, ce que la nature nous demande, c'est simplement de vivre en bonne harmonie avec les virus et d'avoir une hygiène de vie et un mode de vie, un mode d'alimentation, un mode de gestion du stress, un mode de gestion des émotions qui nous permettent simplement de cohabiter de façon tout à fait naturelle avec les virus, qu'ils s'appellent SRAS, qu'ils s'appellent MERS, qu'ils s'appellent Ebola, qu'ils s'appellent le virus de la grippe aviaire, qu'ils s'appellent le virus de la grippe H1N1, qu'ils s'appellent tous les virus coronavirus qui ont existé avant celui-ci. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de questions qui se posent depuis quelques jours en observant ce qui se passe dans le monde. C'est quand même extraordinaire. J'aurais jamais imaginé qu'on soit capable, que les dirigeants de ce monde soient capables, en quelques jours, de mettre à l'arrêt 3 milliards de personnes sur cette Terre. 3 milliards. Et j'aurais encore moins cru que les dirigeants de ce monde soient capables d'orchestrer un mensonge aussi énorme que celui de la pseudo-pandémie de coronavirus. Parce que je persiste et je signe, nous sommes toujours dans une pseudo-pandémie. Alors vous allez me dire, ouais, mais enfin les Chinois ont sous-estimé le nombre de leurs morts. Ouais, mais en Italie, regarde Jean-Jacques, en Italie, c'est une hécatombe. En France, on n'est pas loin de l'hécatombe. En Belgique aussi. Aux États-Unis, n'en parlons même pas, surtout dans l'État de New York. Et je me suis laissé convaincre pendant un certain temps par ces chiffres en me disant, bon sang, mais on a peut-être pour une fois une vraie épidémie, on a pour une fois une vraie pandémie. Et peut-être que cette fois-ci, c'est très sérieux, ceux qui ont fabriqué ce virus en laboratoire ont réussi leur coup, ils ont réussi à en faire quelque chose de très contagieux et de très mortel en même temps, chose qui n'était jamais arrivée jusqu'à présent. Allez revoir ma conversation du lundi numéro 26, où je vous explique en fait que c'est une impossibilité naturelle d'avoir un virus qui est à la fois très contagieux et très mortel. Soit il est très contagieux, mais alors très peu mortel, et je vous explique tout ça évidemment dans la conversation numéro 26. Et donc, comme je suis un perpétuel sceptique de par ma formation scientifique, comme je suis un perpétuel méfiant depuis que j'ai découvert que les gens qui étaient au pouvoir cherchaient de façon permanente à manipuler l'opinion publique, je me suis mis à la recherche d'informations, de recouper les informations, d'aller chercher les informations dans les sites officiels, dans les statistiques officielles. Et plus j'ai creusé, plus j'ai acquis la conviction que nous étions effectivement dans un immense mensonge, y compris par rapport au nombre de cas, y compris par rapport au nombre de morts, y compris par rapport à la surcharge des hôpitaux, y compris par rapport au fait qu'il n'existe pas de remède pour guérir les personnes atteintes du coronavirus, y compris sur un tas de choses. Je n'ai trouvé quasiment aucune vérité. Ce que j'ai trouvé, c'est une manipulation monumentale à l'échelle de la planète, avec un agenda caché, avec un agenda qui consiste à vouloir installer une dictature mondiale, on va l'appeler comme ça, ou on pourrait l'appeler aussi un gouvernement totalitaire mondial. Ce qui me réjouit dans la situation où nous sommes 3 milliards à être à l'arrêt, c'est que les mensonges des gouvernements, les mensonges de l'élite, sont de plus en plus visibles. Je m'adresse en particulier aux Français. Si vous croyez encore que ce que vous vivez actuellement est dû à l'incompétence de ceux qui nous dirigent, je pense que vous êtes encore très très naïf. Ce n'est pas de l'incompétence. C'est un savant calcul pour tester votre docilité, pour tester notre docilité à nous laisser enfermer pendant des semaines et des semaines dans ce qui se rapprocherait d'un camp de concentration, à part que le camp de concentration ressemble à l'habitat que nous habitions tous les jours, que nous occupions tous les jours, et des camps de concentration dont nous pourrons sortir si nous sommes sages. Et cette sagesse, ou en tout cas cette docilité, ce sera probablement d'accepter un vaccin qui, d'après certaines de mes sources, est déjà fabriqué, sauf qu'ils ne nous le sortent pas encore, d'abord parce qu'il y a un emmerdeur qui s'appelle le professeur Didier Raoult, qui est le plus grand virologue et le plus grand spécialiste des maladies infectieuses du monde, qui a utilisé une voie non officielle pour faire savoir qu'il existait un remède très simple et très peu coûteux pour guérir de la charge virale, ou en tout cas pour réduire la charge virale lorsqu'on est atteint du coronavirus. Et d'autres chercheurs, que ce soit les Chinois, que ce soit les Américains, ont confirmé les affirmations du docteur Raoult. Mais ça, c'est chiant. C'est vraiment chiant par rapport au plan qui était mis en place, parce que le plan qui était mis en place, c'était de nous fourguer des antiviraux qui coûtent à peu près 400 € la boîte, alors que l'hydroxychloroquine et l'azithromycine coûtent quelques euros la boîte. Et donc, pour soigner un patient, ça ne coûterait pas quelques 400 €, mais quelques euros, une dizaine d'euros au maximum. Ce qui est chiant aussi avec Raoult, c'est que du coup, ils ne pourront pas vous fourguer le vaccin qui était l'occasion de en même temps vous injecter une puce, une micropuce RFID, pour qu'on puisse observer le statut vaccinal en permanence lorsque vous passez des frontières, lorsque vous allez dans certains endroits. Alors, si vous ne me croyez pas, parce qu'évidemment, moi, je ne vous demande pas de me croire sur parole, mais je suis quand même un observateur aguerri de ces manipulations mondiales depuis pratiquement 40 ans. Je vous ai raconté dans une de mes conversations du lundi que le Palais Royal de Belgique était venu essayer de me recruter pour que je les aide, en tant que spécialiste des jeux de manipulation et des jeux de pouvoir, pour que je les aide à aider, à conseiller les rédactions de la presse écrite, de la presse radio et de la presse télévisée en Belgique, pour mieux manipuler l'opinion publique de Belgique. Et comme j'ai eu, je dirais, l'outrecuidance de les envoyer à la merde, je dirais que depuis lors, je subis de façon presque permanente un harcèlement administratif et des harcèlements médiatiques. Donc ça se fait depuis 1994 maintenant, que je les ai envoyés bouler, je les ai envoyés chier. Je dirais qu'en 26 ans, j'ai eu droit déjà à 17 contrôles fiscaux, j'ai eu droit à plusieurs accusations d'être un chef de secte, secte qui ne compte qu'un seul membre, c'est-à-dire moi. J'ai eu le droit à plusieurs émissions de télévision qui m'ont lynché, qui m'ont traîné dans la boue. Mais j'ai quand même un avantage, c'est que comme je n'ai rien à me reprocher, je continue à travailler, je continue à observer le monde, je continue à regarder ce qui est en train de se passer dans d'autres pays pour essayer d'anticiper ce qui risque de nous arriver. Les Québécois, les Français, les Belges, les Suisses, les Américains, etc. Alors, allez voir simplement ce qui se passe au Danemark. Au Danemark, ils viennent de voter une loi qui permettra aux Danois de sortir du confinement à condition qu'ils acceptent de se faire vacciner par le vaccin, le futur vaccin, contre le coronavirus. Ça, c'est dans la loi. Dans la loi de santé publique d'urgence sanitaire au Québec, qui existe depuis avant 2009, depuis avant la crise du H1N1, puisque à l'époque, c'était ce qui devait être mis en place, c'était une campagne de vaccination obligatoire encadrée militairement, et je l'ai su parce que j'ai eu des militaires qui n'étaient pas d'accord avec ce projet et qui m'ont contacté, un militaire canadien, un militaire français, qui m'ont tous les deux confirmé qu'ils étaient en attente des instructions des ministres de la Santé pour encadrer militairement les quartiers et pour vacciner de force toutes les personnes en faisant du porte-à-porte. Et c'est maintenant ce qui est en train de se passer de façon beaucoup plus visible. C'est-à-dire qu'en 2009, j'ai eu le privilège d'avoir des informations qui sont restées confidentielles, puisque finalement, on a tellement gueulé en tant que lanceur d'alerte qu'ils ont fait marche arrière, craignant une guerre civile. Mais cette fois-ci, nous sommes tellement confinés, nous sommes tellement coucouche-paniers, et nous allons être tellement poussés à bout qu'à un moment donné, lorsqu'ils nous proposeront ce vaccin salvateur qui n'aura rien d'un vaccin salvateur, eh bien, il y a une bonne partie de la population qui va l'accepter, ce vaccin. Donc, allez voir ce qui se passe au Danemark. Allez voir ce qui se passe en Chine, dans la province de Hubei, c'est-à-dire dans la province où se trouve la ville de Wuhan. Les Chinois peuvent recommencer, certains Chinois peuvent recommencer à circuler à condition que sur leur application de téléphone mobile, ils aient un code vert. Et ce code vert, personne ne sait très très bien comment ils l'ont acquis. Est-ce que c'est parce qu'ils étaient favorables au régime ? Est-ce que c'est parce qu'ils ont accepté une vaccination ? Est-ce que c'est parce qu'ils se trouvaient dans des quartiers qui ont été moins touchés par l'épidémie? Ça, on n'en sait encore rien. Par contre, ce qu'on sait, et ça, c'est certain, c'est que l'accès des Chinois de cette province est restreint à ceux qui n'ont pas un code vert sur leur téléphone cellulaire. C'est-à-dire, s'ils ont un code orange ou un code rouge, eh bien, ils ne peuvent pas fréquenter les restaurants, ils ne peuvent pas aller dans les magasins, ils ne peuvent pas rentrer dans les cinémas, ils ne peuvent pas sortir de la province. Pendant que nous sommes confinés dans nos cellules, dans nos camps de concentration, je ne sais pas si vous avez été frappé de voir que les différents gouvernements ont donné le feu vert et les pleins pouvoirs aux compagnies de téléphonie mobile qui ont reçu l'autorisation de déployer à très grande vitesse les réseaux de 5G qui n'étaient pas encore installés. Et évidemment, peut-être que vous ne faites pas le lien entre vaccination, crise de coronavirus, confinement, 5G. Mais si vous pensez que la 5G est faite simplement pour améliorer notre confort, si vous pensez que la 5G est là tout simplement pour que nous puissions télécharger un film sur Netflix en 2 secondes plutôt que 10 secondes, eh bien, je dirais que vous êtes encore très très naïf. Parce que essentiellement, la 5G, nous n'en avons pas besoin par rapport à nos besoins en tant qu'être humain. Je dirais que attendre 2 secondes ou attendre 10 secondes pour télécharger un film de Netflix sur votre téléphone portable ou sur votre tablette, qu'est-ce que ça change dans votre vie? 8 secondes de différence, rien du tout. Par contre, ce que ça change, c'est la vitesse de connexion entre tous les objets connectés, ce qu'on appelle l'Internet des objets. L'Internet des objets, c'est quoi? Eh bien, ce sont de plus en plus d'objets qui sont de plus en plus nombreux, qui occupent notre vie quotidienne, à commencer par notre téléphone portable, évidemment, nos tablettes, mais aussi notre borne Wi-Fi dans la maison, mais aussi notre frigo, mais aussi le thermostat de chauffage central, mais aussi la centrale d'alarme, mais aussi la centrale d'incendie, mais aussi d'autres éléments d'électroménager, et demain peut-être les voitures sans conducteur, les voitures, je ne sais plus comment on appelle ça, mais enfin bon, vous voyez ce que je veux dire, mais aussi les caméras de surveillance qui se font de plus en plus nombreuses dans nos villes, mais aussi les drones qui sont en train d'apparaître dans le paysage européen. Moi, je ne comprends pas comment vous n'êtes pas plus choqué de voir se développer tous ces objets, parce que ces objets, eux, ils ont besoin de la vitesse ultra rapide de la 5G pour pouvoir vous fliquer, pour pouvoir vous poursuivre, pour pouvoir vous repérer, pour pouvoir vous condamner et pour pouvoir vous donner des mauvaises notes, comme ça se passe déjà en Chine. Donc, vous savez, pendant très très longtemps, en Europe, on disait que l'Amérique est le miroir de notre futur. Ça, c'est quand j'étais petit, dans les années 60, dans les années 70, on nous disait que l'Amérique était le miroir de notre futur, nous annonçait avec 15 ans d'avance ce qui allait nous arriver en Europe. Et effectivement, ça s'est vérifié jusqu'il n'y a pas longtemps. Je vous inviterai à vous tourner davantage maintenant vers la Chine, parce que je pense que c'est la Chine qui est en train de nous tendre le miroir de notre propre futur. Et ce qui se passe en Chine, c'est que pour 1,6 milliard d'habitants, il y a actuellement 900 millions de caméras de surveillance. Ce qui se passe en Chine, c'est que tous les téléphones mobiles sont suivis en temps réel pour qu'on sache à tout moment où vous êtes et à qui vous êtes, avec qui vous êtes. Ce qui se passe aujourd'hui en Chine, c'est que des dizaines de milliers de drones surveillent les rues et patrouillent dans les rues en permanence et sont capables, avec la reconnaissance faciale, de vous interpeller par votre nom, de connaître exactement votre statut judiciaire, votre statut médical, votre statut bancaire, en tout cas votre adresse, et vous rappeler à l'ordre si vous ne respectez pas une des règles qui vous a été donnée. C'est ça qui est en train de se passer en Chine aujourd'hui, c'est ça qui se passera demain si nous ne réagissons pas face à ces gouvernements de menteurs, ces gouvernements criminels qui sont en train d'interdire des remèdes. Et il n'y a pas que l'hydroxychloroquine, il y a aussi la vitamine C qui a permis, entre autres, à la Corée du Sud de se débarrasser très rapidement de cette épidémie. Donc ce sont des gouvernements menteurs, criminels, manipulateurs, qui sont de mèche avec les compagnies pharmaceutiques, qui sont de mèche avec les grosses entreprises, qui sont en train de ruiner complètement la classe moyenne. Et la question que je me pose, c'est pendant combien de temps encore allons-nous accepter ce confinement pour une pandémie qui n'existe pas, dont le nombre de morts n'est pas plus important et peut-être même moins important que la grippe saisonnière qui, chaque année, emporte un certain nombre de personnes dans la tombe. Mais est-ce que l'année dernière, on vous a demandé de porter des masques? Est-ce que l'année dernière, on vous a demandé de rester confiné chez vous pendant des semaines et d'arrêter votre travail? Est-ce que l'année dernière, on vous a alerté sur le nombre de morts tous les jours, même toutes les heures, chaque fois que quelqu'un mourait de la grippe saisonnière? Vous êtes-vous posé un certain nombre de questions? Et c'est là que j'aimerais en arriver dans cette conversation d'aujourd'hui. C'est que je me suis vraiment posé la question, mais pourquoi il n'y a pas plus de gens qui se révoltent? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui se rendent compte qu'on leur ment à la gueule, qu'on se fout de leur gueule? Et j'ai peut-être été mal compris lorsque l'autre jour j'ai cité Emmanuel Macron qui disait « nous sommes en guerre » et que j'ai dit « ce que Emmanuel Macron voulait dire c'est « nous sommes en guerre avec vous, petit con ». Le petit con, ce n'était pas moi qui vous le disais à vous, c'était « je me mettais à la place d'Emmanuel Macron » qui, derrière son cynisme absolument imbuvable, était en train de se foutre de votre gueule en direct à la télévision pour vous faire croire que vous étiez en guerre, comme l'avait fait auparavant George W. Bush en 2001, en disant que nous étions en guerre contre le terrorisme. Et la ressemblance entre les deux, c'est que de plus en plus de personnes ont remis en question la thèse officielle des attentats du 11 septembre. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cela. J'ai développé cela dans un dossier complet sur ma chaîne privée, à laquelle je vous invite toujours. Mais de plus en plus de médecins, de spécialistes, de virologues, de penseurs sont en train de remettre en question la réalité même de cette pandémie. C'est-à-dire que les thèses officielles du 11 septembre, les thèses officielles du coronavirus sont remises en question par des gens qui ont le courage et la patience d'aller chercher les vrais chiffres, d'aller chercher les vraies statistiques. Mais dans les deux cas aussi, nos chefs de guerre nous ont embarqués dans une guerre qu'il est impossible de gagner. Il est impossible de gagner la guerre contre le terrorisme, puisque le terrorisme, c'est un concept. Ce ne sont pas des êtres humains. Donc, la guerre contre le terrorisme ne se terminera jamais, si on en croit la doctrine américaine. De la même façon que la guerre contre les virus, on ne la gagnera, mais jamais. On pourra inventer des millions de vaccins, la guerre contre le virus ne sera jamais gagné, et encore moins contre des coronavirus ou des virus de grippe dont on sait qu'ils sont extrêmement mutables, ce qui veut dire que même si les vaccins marchaient, ce que je continue à dire que ça ne fonctionne pas, mais à la limite, faites même l'hypothèse que les vaccins marchent. Avec des virus qui mutent en permanence, quelle sera l'utilité d'un vaccin contre le coronavirus ? Nul. En tout cas, nul au niveau de votre santé. Par contre, ce ne sera pas nul au niveau des scénarios de contrôle qu'ils voudraient mettre en place. Et ça, c'est un futur potentiel. C'est le futur auquel ils aimeraient que nous adhérions à travers la peur qu'ils ont provoquée chez nous en nous racontant des mensonges à longueur de journée depuis des semaines et des semaines. Et donc, je me suis interrogé sur comment est-ce que je pouvais vous aider à retrouver un peu de bon sens sans vous plonger moi-même dans plus de peur que la peur qui a déjà été provoquée par les médias menteurs et par les gouvernements menteurs. Et c'est là que je me suis souvenu de deux choses. C'est que d'abord, une bonne façon de sortir de la sidération dans laquelle l'essentiel de la population se trouve, c'est de passer à l'action. C'est-à-dire que c'est une façon de recycler les émotions qui sont bloquées pour l'instant chez vous, et reconnaissez que la plupart d'entre vous, vous avez vos émotions bloquées, complètement bloquées. Et donc une façon de débloquer les émotions, oui, ça peut être aller faire une marche, mais en France, vous êtes le pays le plus horrible en termes de dictature, puisqu'on vous, on vous permet de faire une marche de 1 heure par jour, seul ou éventuellement avec une personne de votre famille, et c'est tout. Certains maires complètement, zélés, ont interdit même que vous sortiez de votre maison à plus de 10 mètres de distance, moyennant des amendes qui sont de plus en plus lourdes et éventuellement une menace de peine d'emprisonnement. Mais pourquoi est-ce que vous ne sortiriez pas tous en même temps? Ça aurait comme avantage que la police serait complètement débordée, même l'armée serait complètement débordée si vous sortez tous de vos maisons en même temps. Moi, je me suis mis à rêver à ce qui se passe en France, en Belgique, en Suisse, au Québec, aux États-Unis. La même chose qui s'est passée en Argentine il y a quelques années, vous le savez peut-être ou vous ne le savez pas. En Argentine, le dictateur qui était en place à ce moment-là a déclaré un couvre-feu et a interdit la population, sous peine de grosses amendes et de peine d'emprisonnement, de sortir. C'était un moment de grande crise économique en Argentine. Et qu'est-ce que la population argentine a fait le lendemain? Ils sont sortis avec des casseroles, vous voyez les images pour l'instant, ils sont sortis avec des casseroles et ils ont manifesté tous ensemble. Et en manifestant tous ensemble, ils ont prouvé que la population était bien plus forte que ce dictateur. Résultat des courses, le dictateur a démissionné et a fui l'Argentine dès le lendemain. Je suis en train de rêver à ça, vous voyez, parce que si nous restons en confinement encore pendant quelques semaines à craindre un virus qui n'est pas plus mortel que le virus de la grippe saisonnière, et je suis désolé pour ceux qui vont m'injurier ou pour ceux qui vont m'attaquer parce que je diffuse des fake news, eh bien, donnez-moi la preuve que tous les cas de coronavirus qu'on déclare, ce sont des cas qui ont été effectivement, qui ont fait effectivement l'objet de tests. Quand vous pensez que la ministre belge de la Santé, qui, vous voyez sa photo, est quelqu'un qui respire la santé, on a vraiment envie de se faire conseiller par quelqu'un comme cela lorsqu'on est malade. Hein? Ça, c'est vraiment un exemple incarné et complètement cohérent de ce que c'est la santé. Vous savez, au Québec, on a eu pendant quelques années un ministre qui lui faisait pas mal concurrence. Hein. C'était le ministre Barrette. Et vous voyez que lui aussi, c'est quelqu'un qui respire la santé et qui est un exemple à suivre pour savoir ce que nous avons à faire de notre corps et de notre hygiène de vie. Mais quand vous savez que la ministre de la Santé belge, fin mars, a interdit que l'on fasse des tests pour dépister qui était porteur de coronavirus et qui ne l'était pas, si ça, ce n'est pas criminel, je ne sais pas ce que c'est. Quand vous savez qu'il y a eu des décrets en France le 27 et le 28 mars dernier qui restreignaient fortement l'utilisation de l'hydroxychloroquine et puis finalement ne la limitaient qu'aux personnes qui étaient en stade terminal, c'est-à-dire au moment où l'hydroxychloroquine n'est plus utile, parce que les gens sont en détresse respiratoire et donc il n'est plus possible à ce moment-là de les sauver, mais qu'on interdit la prescription et la diffusion d'hydroxychloroquine en France pour une raison extrêmement obscure, c'est qu'il y aurait des effets secondaires d'un médicament qui a été prescrit à plus d'un milliard de personnes depuis 70 ans. Si ça, c'est pas criminel, je ne sais pas ce que c'est. Alors, je ne sais pas ce que vous attendez pour vous mettre d'accord par quartier, par ville, par village, pour sortir de chez vous, tous ensemble, à la même heure, et faire comme les Argentins. Si vous ne faites pas ça, un des scénarios possibles, je n'ai pas dit que c'était le scénario qui allait se passer, mais un scénario possible, c'est qu'on ne vous autorise à sortir que dans quelques semaines ou quelques mois, au moment où un vaccin sera disponible et au moment où on vous promettra de vous pucer comme un bon citoyen pour pouvoir sortir de chez vous. Les autres mauvais citoyens seront soit vaccinés de force, soit emprisonnés. J'en ferai partie. Donc, je pense qu'une façon de sortir des émotions, ce sera de passer à l'action. Alors, avant de sortir de chez vous, parce qu'il va falloir s'organiser, ce sera peut-être bien déjà d'écrire à vos ministres, à vos députés, à vos élus locaux, pour leur réclamer des comptes et pour les menacer de déposer plainte pour complicité de meurtre. Parce que c'est ça qui est en train de se passer au niveau de cette crise, au niveau de cette pseudo-pandémie. C'est un meurtre. Je ne vous parle même pas de ce médicament qui maintenant qui est hors autorisation de mise en marché. Donc c'est un médicament qui n'est pas autorisé. Mais il y a un décret en France, de nouveau, la France c'est le pays de toutes les dictatures, hein. C'est vraiment, vous êtes gâtés, hein. Les Français, franchement, je vous plains. Donc ce médicament, dont j'ai oublié le nom, mais qui apparaît à l'écran maintenant, a fait l'objet d'un décret il y a quelques jours, qui autorise les médecins à injecter ce médicament à des personnes qui sont atteintes du coronavirus ou qui sont soupçonnées d'être atteintes du coronavirus et vis-à-vis de qui on ne peut rien faire parce que les hôpitaux sont pleins, soi-disant, alors qu'en fait je reçois de plus en plus d'informations d'hôpitaux qui sont à moitié sinon à trois quarts vides, mais les médias continuent à nous faire croire que les hôpitaux sont complètement débordés et que le personnel soignant est au bord de la rupture. Alors peut-être qu'il n'y a que quelques hôpitaux qui sont complètement remplis et on prend ces hôpitaux-là pour avoir des témoignages de médecins, d'infirmières qui sont au bout du rouleau, qui sont au bord de craquer, au bord du burn-out. Mais il y a beaucoup, beaucoup d'autres hôpitaux qui sont vides. Et donc, on a autorisé ces médecins à injecter ce produit aux personnes âgées, sans demander l'avis à ces personnes âgées, sans demander l'avis à la famille, en sachant que ce produit est un produit létal. Vous avez bien entendu, c'est un produit létal. Je vous laisserai la référence de ce décret sous la vidéo. Ça veut dire qu'en clair, malgré tous les débats qui ont eu lieu ces dernières années sur l'euthanasie, eh bien ici, on vient de donner la permission aux médecins de tuer leurs patients sur base d'un soupçon de contamination au coronavirus et sur base d'un diagnostic ou d'un pronostic effectué seul, sans l'avis d'un deuxième médecin, sans l'avis d'un juge d'instruction, sans l'accord de la famille, de décider de tuer les vieilles personnes. Remarquez que c'est une façon de résoudre le problème de la caisse des retraites. Pour Emmanuel Macron, c'est génial. Mais lui aussi aura à répondre de ses actes à un moment donné. Vous savez, on a institué le tribunal de Nuremberg en 1945. Je pense qu'on pourra le rouvrir en 2021 peut-être, ou en 2022, et traduire tous ces criminels en justice. L'autre chose que j'avais envie de vous dire, c'est que pour vous aider à vous faire votre propre opinion, j'ai pris la décision de publier une nouvelle playlist. Cette nouvelle playlist, c'est un clin d'œil au jeu le plus ancien de la télévision française, c'est les chiffres et des lettres. Eh bien, j'inaugure à partir d'aujourd'hui une playlist qui s'intitulera Des chiffres et des faits. Et donc, ce seront des petites vidéos, chaque fois focalisées sur une thématique, et pas seulement le coronavirus. Il y aura des thématiques sur la 5G, il y aura des thématiques sur l'alimentation, sur l'agroalimentaire, sur l'énergie, etc. Donc, en fait, il y aura toute une série de petites capsules où je vous exposerai à chaque fois un fait en vous donnant toutes les références que vous pourrez aller consulter par vous-même. Et surtout, je vais vous poser deux, trois, quatre questions à vous poser par rapport aux faits que je vous ai présentés ou par rapport aux chiffres que je vous ai présentés, pour que par vous-même, vous récupériez votre capacité à vous poser les bonnes questions avant qu'il ne soit trop tard dans l'instauration de cette tentative de dictature mondiale. C'est là aussi où vous n'aurez plus besoin de me traiter de conspirationniste ou de théoricien ou d'adepte de la théorie du complot, qui est d'ailleurs une injure qui a été inventée par la CIA, qui elle-même s'était inspirée de Joseph Goebbels, qui était quand même le ministre de la propagande sous le régime d'Hitler. Donc vous voyez que, et d'ailleurs, pour ceux qui ignorent qu'il y a une filiation directe entre les nazis et la CIA, le FBI, etc., ben c'est que on ne vous a pas donné les bons cours d'histoire, puisque il faut savoir quand même que suite au procès de Nuremberg, les États-Unis et la Russie ont récupéré pratiquement tous les scientifiques qui avaient collaboré avec le régime nazi, et ces scientifiques ont continué à faire exactement les mêmes travaux eugéniques et les mêmes travaux dégueulasses que ceux qu'ils faisaient sous le règne du Troisième Reich. Donc, théorie du complot, c'est quelque chose qui a été mis en place par la CIA pour discréditer justement à l'époque les gens qui critiquait la politique américaine, la politique extérieure et la politique intérieure américaine. Et donc, c'était très facile, à partir du moment où ils n'étaient pas capables de démonter les arguments de leurs opposants, de dire, ouais, mais lui, c'est un adepte de la théorie du complot. Donc, vous voyez, vous n'êtes pas très originaux, les amis. Lorsque vous traitez quelqu'un d'adepte de la théorie du complot, vous ne faites que, finalement, vous inscrire dans la droite ligne de Joseph Goebbels et de la CIA. Voilà. Donc, plutôt que de passer votre temps à me soupçonner et soupçonner d'autres lanceurs d'alerte d'être des adeptes de cette théorie du complot, je vais vous inviter à aller vérifier par vous-même. Mais comme chercher des informations, ça prend des heures, moi j'y passe 60 heures par semaine actuellement, eh bien, j'avais décidé de vous donner les informations les plus pertinentes et parfois de les confronter même avec le discours officiel pour que vous ayez l'occasion de comparer ce qui est dit dans les médias officiels et puis ce qui se passe dans la réalité du terrain. Donc, je vous invite à chercher sur ma chaîne la playlist qui s'intitule Des chiffres et des faits et il y aura une parution qui sera totalement aléatoire. Je pourrais peut-être publier trois vidéos sur une journée, puis ne pas en publier pendant 2 jours, et puis en mettre quatre la journée suivante, etc. Donc peu importe, mais ce sera classé par thématique, santé, ondes électromagnétiques, alimentation, énergie, etc. Donc comme ça, vous pourrez vous y retrouver selon vos sujet d'intérêt, et ceux qui seront abonnés à ma chaîne privée, eh bien, vous aurez en plus accès à des PDF qui reproduisent les documents, à accéder aussi peut-être aux vidéos sur lesquelles je me suis basé pour faire ces petites vidéos des chiffres et des faits. Voilà. Donc, ça, c'est le cadeau que j'avais envie de vous faire, et je vous avoue que c'est un cadeau très très égoïste parce que si je suis seul à sortir dans la rue pour manifester mon désaccord par rapport au confinement totalement inutile, ben je ne ferai pas beaucoup d'impact sur la marche des choses. Par contre, si nous sommes quelques millions à sortir dans la rue de façon coordonnée et à refuser non seulement le confinement, mais à refuser à partir de maintenant tous ces mensonges et toutes ces manipulations qui sont mues d'une part par des intérêts où il y a des milliards qui sont en jeu et d'autre part qui sont mues par une volonté de nous contrôler de façon encore plus importante que ce qu'ils n'ont fait jusqu'à présent. Ben, s'il n'y a pas des millions de personnes qui refusent dès à présent et qui rejettent et qui destituent ces gouvernements menteurs et criminels, eh bien, je ferai partie, comme vous, peut-être, de ceux qui iront en prison, qui seront peut-être vaccinés de force, qui seront peut-être tués dans cette bataille qui, aujourd'hui, est une guerre, effectivement, mais c'est une guerre contre les peuples, c'est une guerre contre les classes moyennes, c'est une guerre contre les pauvres, menée par les ultra-riches, par ces gens qui ont des richesses qui sont complètement indécentes. Et ma détermination, elle est là, et vous pourrez compter sur moi. Je serai à vos côtés pour vous donner toutes les informations pour que vous puissiez vous-même vous faire une opinion de ce qui est en train de se préparer à notre insu. Je vous embrasse, je vous remercie de partager très largement cette vidéo d'aujourd'hui et de vous inscrire sur ma chaîne privée pour avoir tous les compléments d'informations que je vous ai promis. C'est vraiment là que les choses vont se passer en termes de préparation des informations et de préparation de ce réenchantement du monde auquel je pense depuis plusieurs années. Et plus que jamais, nous allons devoir nous battre pour réenchanter le monde.